Europe Midi, écoutez le monde changer. Simon Rubin.
12h49 sur Europe 1 et cette question, doit-on avoir peur pour les États-Unis? La cérémonie d'investiture de Joe Biden a lieu dans 3 jours. Peut-elle être marquée par la violence? Quelle sera l'attitude de Donald Trump? Voilà quelques-unes des questions que l'on se pose aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Nicole Bacharan, en ce moment, on l'entendait dans le journal avec la correspondance de Benoît Clerc, en ce moment, Washington se barricade en prévision de la cérémonie du 20 janvier. Il y a un vrai risque sécuritaire, selon vous ?
En tout cas, c'est ce qu'annonce le FBI. On imagine que c'est quand même pas pour rien qu'il y a 20 000 soldats dans la ville. C'est vraiment une forteresse militarisée. Et en fait, la grande crainte, ce sont les groupes d'extrême droite, les milices surarmées, avec des armes automatiques, évidemment, et qui ont toujours considéré que Donald Trump, en fait, c'était leur homme, leur président à la Maison-Blanche, et qui sont prêts à beaucoup de choses pour le défendre et pour le maintenir à la Maison-Blanche, même s'il ne les a jamais approuvés directement. Il a envoyé plein de signes pour que ces groupes d'extrême droite se sentent légitimes à agir pour Donald Trump.
Trump, il a activé, réveillé, peut-être même enragé une partie du pays qui ne compte pas se rasseoir sagement, pourrait-on dire ?
Exactement, et c'est vrai qu'il faut distinguer les électeurs de Donald Trump, 74 millions d'Américains qui sont déçus qu'il n'ait pas un second mandat. Il y en a à peu près 60% parmi eux qui pensent que l'élection de Joe Biden n'est pas légitime, qu'en fait c'est Trump qui a gagné, et ça c'est très grave pour la démocratie américaine. Et puis vous en avez qui sont prêts à aller au combat contre l'État, contre les gouverneurs, contre Joe Biden, le cas échéant. Donc tout ça est évidemment très divisé. On va de situation de citoyens pacifiques à des citoyens ultra-violents. Mais c'est un vieux courant américain, la violence, se faire justice soi-même, l'individualisme à tout craint, que Donald Trump n'a pas créé du tout, mais qu'il a, comme vous le disiez très bien, enragé.
Selon vous, est-ce que la démocratie américaine est en danger ou à l'inverse, est-ce qu'elle résiste plutôt bien vu les circonstances ?
J'ai envie de dire les deux. On voit que finalement, les institutions, elles ont résisté. Les juges ont joué leur rôle, par exemple, dans l'élection, les uns après les autres, à travers tout le pays, ont rejeté des recours formulés par l'équipe Trump, qui n'avaient pas de fondement, et ces juges n'avaient pas une affiliation politique particulière, et c'était certainement pas tous des démocrates de cœur. On voit que le Congrès, finalement, a bien validé l'élection de Joe Biden. On voit que la Cour suprême n'a pas tenter d'agir en faveur de Donald Trump, et surtout, on voit que l'armée, évidemment, est fidèle à la Constitution avant toute chose. Mais à l'intérieur du pays, il y a vraiment des dangers antidémocratiques très très forts, je le disais, qui sont anciens, mais qui par exemple en ce moment sont totalement exacerbés par le foisonnement des réseaux sociaux où circulent et sont adoptées largement les théories les plus folles.
Vous parlez de racines anciennes à cette violence, il y a toute une mythologie américaine de la violence, de l'arme, ça vient effectivement pas de nulle part dans l'histoire américaine.
Absolument, c'est un pays qui a été fondé à la fois sur la passion de la liberté, mais qui peut aller jusqu'à une véritable sur un enragement de la liberté individuelle. Moi d'abord, mon cheval, mon fusil et mon ranch, a également fondé sur l'esclavage, donc une violence extrême. Et à travers toute l'histoire américaine, on voit un courant présent que je qualifierais de paranoïaque, de xénophobe, qui souvent était à la marge dans l'histoire, et puis qui par moments est revenu vraiment sur le devant de la scène. Je pense par exemple aux années McCarthy dans les années 1950, où on supposait voir des communistes et des ennemis de l'État partout, à aujourd'hui avec Donald Trump qui incarne avec une force personnelle incroyable ce courant paranoïaque, violent, xénophobe.
Et ça ne concerne pas que Washington, hein. Il y a par exemple cette alerte lancée sur tous les capitoles de tous les États du pays qui sont menacés.
Absolument. Donc chaque État a son gouverneur, a son parlement qui est logé dans son Capitole. Souvent, ce sont des bâtiments qui rappellent en plus petit le Capitole de Washington. On a pas mal de bâtiments à colonnes. Et il y a effectivement des menaces à l'égard des parlementaires de tous ces États. Il y a eu, notamment il y a quelques mois, la gouverneure du Michigan qui a été très menacée par des hommes en armes, le Parlement menacé par des hommes en armes à cause des mesures de confinement. Et à ce moment-là, Donald Trump soutenait ces hommes qui venaient menacer les parlementaires à l'intérieur du Capitole du Michigan.
Dans l'histoire des États-Unis, on a déjà connu un pareil début de mandat avec notamment ici une menace intérieure ?
Bien écoutez, de mémoire d'historienne, je crois qu'on n'a rien vu de tel depuis 1861, l'investiture d'Abraham Lincoln et à la veille de la guerre de sécession. C'est la dernière fois où on a eu une partie du pays qui refusait catégoriquement d'avoir pour président le président élu qui était Lincoln. Il y avait 7 États qui avaient déjà fait sécession au moment de l'investiture. 4 autres qui allaient les rejoindre.
Allez-y.
Et jamais, jamais depuis cette investiture, autant de menaces sur la cérémonie et sur le président élu lui-même. Donc ça nous montre à quel point le moment actuel est un moment dangereux.
Joe Biden arrive donc dans cette Amérique plus que jamais divisée. Est-ce qu'on connaît un petit peu sa feuille de route ? Il va devoir d'un côté essayer de réunir, unifier de nouveau ce pays, en même temps tenir une politique, on va dire, bien davantage progressiste. Est-ce qu'on a une idée en termes de politique du climat, commercial aussi ?
La première chose qu'on peut dire, c'est que sa feuille de route, elle est extrêmement chargée dès mercredi à midi. Et c'est important, hein, quand vous évoquez la question de tenter de réunir le pays, son discours est extrêmement unificateur. Il parle essentiellement des urgences communes, à savoir le Covid, l'économie, et qui ne sont pas des sujets démocrates ou républicains, en tout cas normalement. En voyant l'équipe de Biden, on voit qu'il n'a pas mis autour de lui des gens qui représentent la gauche du Parti démocrate. Il n'a que des modérés qui peuvent réellement parler à tout le monde. Donc dans les premières heures, on annonce des décrets, on annonce des propositions de loi à transmettre au Congrès sur le Covid, la vaccination, les mesures d'urgence, sur l'économie, un énorme plan de soutien que Biden souhaite de 1900 milliards. Et également des initiatives vers l'étranger, donc réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Ça, le président peut le faire lui-même, il ne s'agit pas d'un traité, donc il s'agit d'une nouvelle signature, si j'ose dire. Également des contacts immédiats avec les alliés européens et reprendre en main la politique étrangère américaine pour l'orienter autour de l'OTAN, autour des alliés et pas autant en direction des autocrates comme le faisait Donald Trump.
L'Amérique face à elle-même et face au défi de la réunification. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Bacharan, de nous avoir éclairé sur cette question américaine sur laquelle on reviendra évidemment à l'antenne d'Europe 1. On rappelle, Nicole Bacharan, 2 ouvrages, Le Monde selon Trump chez Talendier et puis First Ladies avec Dominique Simonet qui sont sortis récemment.